Vous écoutez RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ma fille, à la maison, elle est partie contrainte et forcée. Je pense que cette personne n'avait pas prémédité la chose. Je pense même que ma fille devait le connaître. Elle devait le connaître, forcément. Elle n'aurait pas amené une personne qu'elle ne connaît pas devant la maison. De la manière que la personne s'est garée, il connaissait les lieux, quoi.
Bonjour. Une affaire sans ADN et sans corps. Pas de traces de lutte. Pas la moindre gouttelette de sang, aucune empreinte, pas la plus infime des poussières qui peut conduire au meurtrier. La disparition et la mort d'Amandine Estrabo dans un village du Tarn demeure à ce jour un crime invisible, un insondable mystère, même si celui-ci a été officiellement résolu. À deux reprises, un homme a été condamné par une cour d'assises. Guéric Géhanno est aux yeux de la justice celui qui a enlevé, séquestré, violé, tué et fait disparaître Amandine. Ce maçon, qui s'exprime maladroitement, était apparu au fil de l'enquête comme la seule personne qui aurait pu commettre ce crime. Deux procès et deux condamnations n'ont toutefois pas pu faire émerger le scénario exact du meurtre et n'ont pas réussi à apaiser la douleur de la famille d'Amandine, dont le corps n'a jamais été retrouvé. On ignore encore tout de ces derniers instants. Comment Guéric Géhanno est devenu le seul suspect qui compte? Où est passée la jeune femme?
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Amandine Estrabo. À la fin du printemps 2013, cette célibataire de 30 ans disparaît brutalement de chez elle, en plein jour, dans un petit village du Tarn. Ce mercredi 19 juin 2013, Monique Cyr se rend chez sa fille Amandine, 30 ans. Elle n'a pas de nouvelles d'elle depuis la veille. Amandine a emménagé depuis quelques jours dans un pavillon neuf, en pleine campagne, au lieu-dit Cantegaline, à la sortie du village de Roquecourbe, à une dizaine de kilomètres de Castres. La maman a la surprise de trouver la maison vide, la porte a été laissée ouverte, tout comme la baie vitrée à l'arrière qui donne sur un champ. Amandine a laissé sur place toutes ses affaires, ses vêtements sont là, ainsi que ses papiers, son chéquier, sa carte bancaire et un peu d'argent liquide. Il y a même dans le salon son téléphone portable. Aucun placard n'est ouvert, rien n'a été renversé ou cassé. Monique Cyr est subitement inquiète. Les gendarmes sont prévenus. Ils visitent les lieux, intrigués par les herbes à l'arrière de l'habitation. Elles sont couchées, comme foulées aux pieds. Il est retrouvé ici une paire de ballerines qu'Amandine portait la veille. Un peu plus loin, il y a une paire de boucles d'oreilles. Les attaches sont déformées. Elles ont pu être arrachées. Les relevés d'empreintes ne donnent strictement rien. Les enquêteurs savent que la veille, mardi 18 juin, Amandine Estrabo a quitté vers 13h10 le lycée professionnel Anne Vaught, 46 boulevard Magenta, à Castres, où elle travaille en qualité d'assistante d'éducation. Ses collègues n'ont rien trouvé d'anormal dans le comportement de la jeune femme qui semblait égale à elle-même, souriante et épanouie. Amandine n'a pas de voiture, elle a sans doute marché, puis a probablement fait du stop. Le fait est qu'elle est repassée chez elle. Vers 16h, Karine, une voisine, l'a aperçue en train de descendre de la place passager d'un fourgon Renault de couleur blanche. Elle est rentrée normalement chez elle. Karine a également aperçu un homme de la même taille, de la jeune femme, autour de 1m70, quitter le siège conducteur. Un individu, raconte-t-elle, assez charpenté, cheveux châtains, portant un pantalon gris clair ou beige, avec une bande verticale orange, un pantalon de chantier. Un autre témoin assure que le véhicule était toujours là vers 16h45, mais avait disparu à 18h. Les recherches pour retrouver la camionnette blanche, sans doute un ancien modèle de Renault Trafic, battent leur plein mais restent infructueuses. La téléphonie est passée au crible pour tracer la présence de portables sur les lieux de l'enlèvement. Des suspects potentiels sont listés, interrogés, leurs emplois du temps vérifiés. Un an va ainsi s'écouler jusqu'au mois de juin 2014. L'attention des enquêteurs est alors attirée par un homme de 25 ans, un maçon qui habite chez sa mère à Roquecourbe. Il a tenu auprès de ses proches des propos incohérents, parlant d'odeur de putréfaction dans sa camionnette, affirmant qu'il n'est pas un assassin. Le 17 juin, Guéric Géhanno est placé en garde à vue. Il connaissait Amandine Estrabo, mais assure ne lui avoir fait aucun mal. L'entreprise de maçonnerie pour laquelle il travaille utilise bien un vieux Renault Trafic blanc. La témoin, Karine, ne reconnaît pas en Géano l'homme qui était avec Amandine, mais son pantalon de chantier est bien identique. Les gendarmes pensent tenir le suspect numéro 1, sauf que l'employeur du maçon indique que ce 18 juin 2013, Géano ne pouvait pas être à Roquecourbe, il était sur un chantier. À Castres, Guéric Géano, fragile et désemparé, est ressorti libre de cette première garde à vue, mais les gendarmes vont continuer à enquêter discrètement sur son cas, jusqu'à déceler une faille dans son emploi du temps le jour de la disparition de l'assistante d'éducation. Impossible de savoir où se trouve le corps d'Amandine Estrabo. Les chiens de recherche envoyés autour de sa maison dans les heures suivant la disparition n'ont détecté aucune piste, accréditant la thèse que celle-ci est repartie comme elle était venue, à bord de la fameuse camionnette blanche. Peut-être était-elle déjà morte à ce moment-là. La campagne de Roquecourbe a été ratissée, tout comme les rives de la petite rivière, la Goue qui passe dans le secteur. Depuis 3 ans, les profils de 52 suspects potentiels ont été vérifiés, mais un seul a retenu l'attention des gendarmes, celui de Guéric Géano. Son alibi, vérifié et revérifié, ne tiendrait plus la route. Le 7 avril 2016, Géano est à nouveau placé en garde à vue. Jusque-là, il était établi que l'ouvrier maçon se trouvait à l'heure de la disparition, non pas à Roquecourbe, mais à Castres. Après de nombreuses vérifications lancées auprès de son employeur, cet emploi du temps n'est plus tout à fait le même. Il est établi que ce 18 juin 2013, l'entreprise a reçu une livraison de béton pour un chantier au mât d'Enfaux à Roquecourbe. Guéric Géano faisait partie de cette équipe, 3 hommes qui avaient emprunté ce jour-là le vieux fourgon Renault. En garde à vue, Guéric Géano affirme qu'il ne s'est jamais absenté de ce fameux chantier. Les enquêteurs établissent que la dalle de béton destinée à une terrasse a fini d'être coulée vers 15h50. Il fallait attendre une bonne heure avant qu'elle ne sèche, le temps pour le maçon peut-être de quitter le chantier et de croiser la route d'Amandine. Ses collègues sont dans l'incapacité de dire si Géano s'est absenté ce jour-là. Ils ne s'en souviennent pas. Impossible de savoir avec certitude s'il a emprunté alors le Renault pour se rendre quelque part et combien de temps il aurait pu s'absenter. Selon son chef d'équipe, Guéric Géano serait revenu sur le chantier aux alentours de 17h pour le talochage de la dalle, mais il ne peut pas l'affirmer. Le maçon dément vigoureusement avoir quitté son lieu de travail et s'en être pris ensuite à Amandine. Il dit être rentré chez lui. Sa mère indique qu'il a joué ce soir-là comme chaque soir sur sa console PS3, mais aucune connexion n'est détectée. Les témoignages de personnalités recueillis par les gendarmes dressent un portrait peu rassurant de Guéric Géano. Il est décrit comme quelqu'un d'impulsif et de déchiré, un garçon qui a beaucoup souffert de certains drames familiaux, notamment les décès de son père et de son frère. Des femmes qui l'ont côtoyé indiquent qu'il pouvait être violent et agressif envers elles et avait l'habitude de s'alcooliser. Un fourgon blanc, une tenue de chantier, un emploi du temps flou, une personnalité fragile et un intérêt poussé pour Amandine Estrabo, pas de doute pour les enquêteurs, qui écrivent alors que le suspect apparaît comme le seul homme qui aurait pu croiser la route de la victime. Un homme avec I, Amandine pouvait monter sans crainte dans son fourgon, puis le laisser rentrer chez elle pour prendre un verre. Guéric Géano est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est placé en détention provisoire. Guéric Géano ne va pas quitter sa prison de sitôt. Des témoignages de co-détenus vont l'accabler. Il faudra qu'il attende 4 ans pour que son procès s'ouvre.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
On veut savoir, évidemment, mais ça fait peur en même temps de la vérité. Ça fait peur. Si ça amène à quelque chose, ça va amener quoi, mon Dieu ? Alors là, évidemment, j'étais prise de panique, quoi. Me dire, pour qu'elle soit en vie, pour que ça... Ça fait peur, évidemment. Si. Si on doit rester aussi sans, jamais sans rien savoir, c'est le pire de tout.
Le jeudi 8 octobre 2020, le procès de Guéric Géano, 32 ans, s'ouvre devant la cour d'assises du Tarn à Albi. Il est accusé de meurtre et de viol, il risque la prison à perpétuité. « Je choisis de parler, je répondrai aux questions », indique d'emblée l'accusé. Le dossier de l'accusation s'est étoffé de nouveaux témoignages quelques mois avant le procès, ceux de plusieurs co-détenus auxquels Géano aurait avoué avoir tué Amandine Estrabo. Il leur a donné beaucoup de détails et même fourni un plan désignant l'endroit l'endroit où il aurait enterré la jeune femme. Les recherches n'ont rien donné. Les ex-codétenus sont cités comme témoins. Ils confirment l'étrange confession de Géano. Celui-ci répond « J'ai tout inventé. Si j'avais fait quelque chose de grave, je l'aurais dit aux gendarmes. Ils m'ont tellement mis la pression, je l'aurais dit. » L'accusé dira avoir donné ces informations fantaisistes pour qu'on le laisse en paix en prison. Une enquêtrice de personnalité décrit Guéric Géano comme un garçon taciturne et renfermé. Pour le reste, l'accusation se focalise sur l'absence d'alibi du maçon, un emploi du temps difficile à cerner dans l'après-midi de la disparition. La témoin principale confirme avoir vu descendre Amandine d'un fourgon blanc. Devant la porte, elle s'est penchée pour fouiller son sac et a sorti ses clés, dit-elle en évoquant une scène paisible. À propos de l'accusé, elle précise « Tout semble concorder, mais je ne peux pas affirmer que c'est lui. » Géano explique « Je n'ai pas bougé du chantier. Si on quittait ce chantier, on le quittait tous ensemble. Je n'en suis pas parti. Je n'ai pas croisé Amandine. Ce n'est pas moi. » Pour l'un de ses avocats, Simon Cohen, le dossier n'a pas évolué d'un pouce 7 ans plus tard. L'accusation n'apporte aucune preuve, aucun indice nouveau. Le 14 octobre 2020, Guéric Géano est condamné à 30 ans de prison. Guéric Géano se dit innocent et fait appel de ce verdict, l'occasion pour ses avocats de faire voler en éclats un dossier qu'ils estiment à sens unique et dans lequel d'autres pistes ont peut-être été trop vite délaissées. Le lundi 15 novembre 2021, Guéric Géano est dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de Toulouse. La famille de la victime dit vivre un cauchemar depuis 8 ans et ne pas pouvoir se recueillir devant la dépouille d'Amandine. « J'attends surtout qu'il parle enfin, qu'il nous dise où est le corps de ma fille », indique sa mère, Monique Cyr. Mais Géano continue à clamer son innocence. Ses avocats dénoncent les doutes, les interrogations qui abondent dans ce dossier, y compris à propos de la victime, Amandine. Maître Simon Cohen explique qu'après tout, rien ne prouve que la jeune femme qui sortait d'une séparation n'ait pas voulu partir volontairement. L'autre avocate de Géano, maître Marie-Hélène Piboulot, parvient à semer la confusion chez la témoin numéro 1. Cette femme révèle que les gendarmes ont voulu lui faire dire que c'était Guéric le coupable. « Je me suis mise en colère, je leur ai dit que s'ils continuaient, je partais. » Alors que le frère d'Amandine, Rémi, s'adresse à l'accusé et essaie de lui arracher des aveux, ce dernier répond « Je ne sais pas où elle est, sinon je l'aurais dit, pour baisser ma peine au moins, ça fait 5 ans et demi que je suis en prison. Maintenant, il faut que ça s'arrête. » Guéric Géano dira encore « Je n'ai pas tué Amandine, je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps, je n'ai jamais dit que j'avais le béguin pour elle. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le béguin, c'est les gendarmes qui ont utilisé ce mot, alors j'ai dit « Si vous voulez ». Maxime, qui connaît bien l'accusé, témoigne « Guéric, il porte tout sur lui. Il a beau se taire, on lit tout sur son visage. S'il avait commis un truc pareil, ça se serait vu. » Malgré le tir de barrage de la défense, les jurés considèrent l'accusé coupable, condamné à nouveau le 19 novembre à 30 ans de prison. Dans l'attente d'un éventuel pourvoi en cassation, le maçon Géano est considéré comme le ravisseur, violeur et meurtrier d'Amandine. Seul un témoignage capital ou un fait nouveau, la découverte du corps par exemple, pourrait relancer la procédure. Avant le deuxième procès, l'un des avocats de l'accusé, maître Simon Cohen, avait évoqué, sans la nommer, une affaire voisine et au contour ressemblant, l'affaire Jubilard. Le défenseur notait des similitudes avec ce fait divers qui, disait-il, mérite de retenir l'attention et de ne pas exclure une hypothèse, celle peut-être d'un tueur qui évoluerait dans la région. Hypothèse qui n'a pas été retenu ni par les enquêteurs ni par les deux cours d'assises. Pas une particule de sang, pas un lambeau de chair, pas un ongle brisé, détaillent encore les avocats, mais au final deux condamnations. L'ADN de Guéric Géano n'est jamais apparu sur la scène de crime et les 105 outils retrouvés chez lui, tous minutieusement inspectés, n'ont pas livré la moindre indication. Guéric Géano, manifestement résigné, avait baissé les yeux à l'écoute du verdict. La famille d'Amandine Estrabo attendait la confirmation de la condamnation, même si elle laisse dans leurs esprits un sentiment d'inachevé. « J'ai du mal à apprécier cette victoire tant qu'on n'a pas enterré Amandine », dira Rémi, le frère de la disparue. Maître Pierre de Buisson indique que Guéric Géano peut encore soulager sa conscience en révélant où se cache le corps. Cela pourrait lui faire gagner jusqu'à 8 ans de liberté et ça aiderait énormément la famille d'Amandine.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.